80e D-Day, 9 sites qui ont changé l'histoire. Un podcast by Tendance Ouest.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième épisode de notre podcast sur ces 9 sites qui ont changé l'histoire en juin 1944. Aujourd'hui, nous plongeons à la découverte du port artificiel d'Arromanches, une prouesse d'ingénierie qui a changé le cours du débarquement. Cet élément incontournable du circuit des plages du jour J est encore bien visible de nos jours. Quand la stratégie militaire rencontre l'audace technique, cela donne ce port baptisé Winston, en l'honneur de Churchill, alors premier ministre britannique et héros de cette guerre. Conçu pour durer 3 mois, il est encore présent 80 ans plus tard et a transformé la petite ville paisible d'Arromanches en symbole de libération. Quand le passé façonne le présent, découvrez cette histoire en commençant par un extrait du film conçu par le musée du débarquement de la ville.
Nous sommes le 6 juin 1944, c'est l'opération Overlord. Le lendemain, des structures commencent à apparaître au large. Ce sont les éléments des ports préfabriqués. Nom de code, Mulberry. Ce sont ces vestiges que vous pouvez encore apercevoir aujourd'hui. Ce port préfabriqué a fait entrer Arromanches dans la grande histoire.
Des intervenants vont nous narrer ce passé et nous aider à comprendre comment cette mémoire se vit 80 ans après les faits. Habitants, commerçants, mais aussi le maire de la commune, Marcel Bastide, et le directeur du musée d'Arromanches, Frédéric Sommier, on l'écoute tout de suite.
Nous sommes dans le secteur britannique sur la plage de Gold, et il n'y a pas eu de débarquement proprement dit le 6 juin à Arromanches, parce que justement, Arromanches a été préservé pour construire ce port artificiel, d'abord dédié à la logistique. La ville d'Arromanches a été libérée par les terres. Les soldats britanniques ont débarqué à Annel et ont pris les Allemands, qui étaient très peu nombreux ici, à revers pour libérer la commune d'Arromanches, qui a été libérée le 6 juin matin.
Marcel Bastide, le maire, répond à la question cruciale. Pourquoi la ville d'Arromanches a-t-elle été choisie?
Parce que des études qui ont été faites en secret par les Britanniques sur les fonds marins, etc., ils ont choisi ce site uniquement parce qu'ils ont estimé, d'un point de vue militaire, que c'était là qu'il était le mieux adapté.
Ce site n'est pas un lieu ordinaire, il est chargé d'histoire, et les habitants, aujourd'hui, en sont bien conscients, comme en témoigne Chloé Planté, qui vit ici depuis 4 ans.
C'est quelque chose d'exceptionnel, de toute manière, on y est confronté tous les jours quand on passe, hein. On voit la mer, on voit les vestiges du débarquement, du port artificiel, les pontons, les blocos un peu partout, que ça soit sur les routes, sur la côte. Et oui, c'est quelque chose qui me marquera toujours et auquel je penserai toujours. On peut pas se lasser ou normaliser. J'ai envie d'appuyer ce tourisme mémoriel, le souvenir, la mémoire, c'est hyper important de le faire perdurer. Sachant qu'en plus, oui, on est à l'approche du 80e. Ça va être le dernier gros anniversaire où on aura encore des vétérans. Donc c'est vraiment quelque chose. Ça va être très sympa. Et puis ouais, c'est important de se remémorer toutes ces personnes qui se sont battues pour notre liberté aujourd'hui. Et puis cette cohésion, les prouesses techniques à l'époque du débarquement, du port artificiel, c'est vraiment impressionnant. C'est quelque chose dont on doit se souvenir pour toujours, même après, quand il n'y aura plus de vétérans, etc.
Vincent Briand est lui le gérant de l'établissement La Brasserie d'en face. Restaurant qui est situé au bout de l'esplanade du Grand Musée d'Arromanches, il est conscient de la chance de travailler ici.
Vu sur mer et sur l'histoire, si, oui, complètement. Bah, nous, c'est vraiment le plaisir d'être sur place, voir la mer, voir les pontons. Et c'est un devoir de mémoire, en même temps une présence, c'est très agréable pour nous. Ouais. L'emplacement qui est numéro 1, c'est vraiment en face la mer, c'est super. Voilà, les clients le ressentent de toute façon, ça accorde aussi un climat particulier. Ouais.
Pourtant, rien ne prédestinait la commune à vivre de tels bouleversements. Avant 1944, Arromanches était un village côtier paisible. Écoutons le maire nous raconter l'évolution historique de la ville.
D'abord, Arromanches, avant 1920, c'était un petit village de pêcheurs. Ensuite, 1920-1930, c'était la grande époque, ce qu'on a appelé la belle époque. Ça a changé la physionomie d'Arromanches, qui est devenu un village de baigneurs touristiques, la belle époque, quoi. Tout le monde connaît ça. Et puis la troisième mutation d'Arromanches, c'est le débarquement le 6 juin 1944, évidemment, qui a bouleversé la vie et l'avenir d'Arromanches.
Revenons au jour J, justement, et à ce port exceptionnel dont le directeur du musée du débarquement, Frédéric Sommier, nous raconte la construction et son utilité.
Ce port n'a pas été construit sur place. Tous les éléments du port ont été construits en Grande-Bretagne, tractés à travers la mer, et installé sur place à Arromanches à partir du 7 juin. La construction de ce port a pris environ 9 mois et a utilisé une main-d'œuvre importante civile en Angleterre, environ 45 000 personnes. Il y a eu deux ports artificiels, donc celui-ci en secteur britannique et un second en secteur américain à Vierville. Il a été déterminant d'un point de vue psychologique, puisque justement les Alliés ne s'imaginaient pas pouvoir débarquer sans amener leur port. Après la tempête du 19 juin, les Américains ont perdu leur port et ont continué malgré tout à débarquer sur les décharger le matériel via les plages, quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément envisagé avec les marées. Et finalement, on s'aperçoit que le port artificiel d'Arromanche, au-delà du fait psychologique, n'a représenté qu'environ 20% de la logistique des Alliés. Le reste est arrivé par voie terrestre, en débarquant directement sur les plages.
Le port, en quelques chiffres, ça donne ça. 12 km de rade, 146 caissons, 60 navires sabordés. Il a permis sur ses 8 mois d'utilisation de débarquer 2 500 000 hommes, 500 000 véhicules et 4 millions de tonnes de matériel. Une prouesse d'ingénierie inégalée dans l'histoire militaire du XXe siècle. À peine 10 ans après ces événements, en 1954, c'est à Arromanche qu'a été construit le tout premier musée du débarquement. Musée qui a réouvert l'année dernière suite à un remodelage complet. Son directeur Frédéric Sommier nous en dit plus sur son renouvellement.
Au-delà de la volonté, il y avait une nécessité, puisque l'ancien musée, le musée d'origine, commençait à être vétuste. Et voilà, c'était pas du tout agréable de visiter. Donc en fait, on est parti de ce constat-là. On s'est dit, on va renouveler notre musée, mais on va faire attention au parcours, on va faire attention aux collections et au confort du visiteur. Donc on a construit plus grand, plus aéré, en apportant évidemment un peu plus de technologies modernes, notamment via les médias vidéo. L'attente de nos visiteurs, notamment les plus jeunes, a elle évolué, puisque aujourd'hui, voilà, on ne sait pas se passer d'un écran. Donc, et en plus, pour moi, l'écran est très pédagogique s'il est bien utilisé. Donc on a apporté beaucoup de médias, effectivement.
Aller toucher les jeunes par tous les moyens, faire notre devoir de mémoire, c'est un enjeu immense et omniprésent dans les discours, comme dans celui du maire Marcel Bastide.
Le problème, je crois que c'est la modernité des réseaux sociaux, le numérique, et c'est ça le problème. Et les jeunes, pour les intéresser au devoir de mémoire, ça c'est compliqué. Alors par contre, nous, ce qu'on fait au musée du débarquement là, ce qui est bien depuis quelques années, c'est pas nous, c'était déjà, on avait engagé avec l'ancien musée, c'est qu'on s'est rapproché des groupes scolaires. On a énormément de groupes scolaires et je m'aperçois que même en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'attention des groupes de jeunes et les encadrants, ceux qui viennent avec eux ici, sont particulièrement, ils sont impliqués, ils ont l'envie d'avoir envie, comme disait le vieux rocker qui est mort il y a quelques années.
Pour la romanchaise Chloé Planté, le devoir de mémoire est essentiel.
Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il perdure dans le temps, que jamais on oublie, c'est trop important. Malgré tous les problèmes actuels, que ce soit en France ou partout dans le monde, il faut se rattacher à ces événements marquants qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui, notre société, le monde, l'Europe. Non, c'est vraiment, vraiment très important de commémorer, de se souvenir, comme on le fait depuis 80 ans, mais en espérant que ça perdure même après le départ des derniers vétérans.
Les vétérans tiennent une place immense dans le cœur des habitants et commerçants, comme en témoigne le gérant du café Vincent Briand.
Nous, on a de la chance d'être là depuis des quelques années. On a eu des vétérans vraiment fixes qui venaient tous les ans. Malheureusement, ils sont tous décédés. Ça, c'est la logique des choses. Par contre, on a la continuité avec la famille qui vient tous les ans. Les familles viennent tous les ans. Elles viennent manger chez nous, on boit des coups. Voilà, ça fait partie du folklore, entre guillemets, mais c'est surtout la tradition, c'est des amis, enfin on se voit vraiment tous les ans à la période du 6 juin, c'est assez particulier ici, ouais.
Marcel Bastide, maire de la commune, parle quant à lui du tourisme de mémoire comme étant dans les gènes de la ville.
C'est ce qu'on appelle l'ADN de la commune, c'est véritablement l'ADN, et puis notamment puisqu'on est en secteur britannique de débarquement là, il y a des centaines de milliers de vétérans britanniques et de leurs familles qui sont venus depuis 70 ans ici.
La ville a donc été transformée par ces événements et fait désormais partie du parcours de mémoire du D-Day. Passé et présent ne semblent former qu'un, mais qu'en est-il du futur par exemple pour Frédéric Sommier, le directeur du musée?
On a des études qui montrent une courbe exponentielle. On a une étude 94-2022-2023. En fait, aujourd'hui, on arrive à environ sur les anniversaires, je pense que cette année, on va atteindre les 8 millions de visites. Pas de visiteurs, de visites, entendons. En 1994, on était à 2,5 millions. Donc on voit bien que c'est une courbe qui est exponentielle malgré la multiplicité des établissements. Parce qu'en 1954, il y avait un musée, c'était celui d'Aromanche. Aujourd'hui, je crois qu'on va être à 37 ou 38, quelque chose comme ça. Hein. Donc vous voyez, malgré cette multiplicité, la courbe augmente. Donc ça démontre un intérêt certain pour la thématique. Où le message est peut-être un petit peu dilué aujourd'hui, où moi j'imagine, si j'amenais mes enfants, ça serait peut-être un peu compliqué. On se bat au quotidien pour transmettre ce devoir de mémoire. En fait, c'est, pour quelle raison? Pour dire plus jamais ça. Et qu'on ne tende pas le flanc à... ça peut encore arriver. Oui, ça peut encore arriver, mais justement... montrons quelle est l'horreur de la guerre pour que les gens prennent conscience qu'il ne faut plus que ça arrive.
Vous l'avez donc compris, ce port est une prouesse technologique de la Seconde Guerre mondiale. Il témoigne non seulement du génie humain, mais aussi des sacrifices extraordinaires consentis pour notre liberté. Aujourd'hui, alors que nous admirons ces vestiges, nous nous rappelons que chaque pierre posée est une fondation sur laquelle reposent nos vies modernes. Les vétérans encore présents sont un symbole vivant de ce lien. Un dernier mot de Chloé Planté.
J'ai croisé des vétérans pendant les anniversaires et c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper émouvant, de touchant, qui reste marqué à vie. Et c'est fou parce que la reconnaissance va dans les deux sens. Ils sont reconnaissants qu'on fasse vivre cette mémoire et nous, on est tellement reconnaissants de tout ce qu'ils ont fait, des sacrifices. Donc c'est des beaux moments.
C'est sur ces mots que nous concluons ce podcast. Une petite phrase pour finir, le passé ne se contente pas de façonner notre présent, il éclaire également notre avenir. A bientôt et rendez-vous à tous le 6 juin prochain.
D-Day, 9 sites qui ont changé l'histoire. Un podcast by Tendance Ouest.